comment négocier avec Donald Trump. Nous sommes toujours avec l'historien Pierre Grosser. À la veille de la rencontre demain à Washington entre le président américain et celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Alors, Pierre Grosser, Barack Obama disait à son époque que les États-Unis se détournaient peu à peu de l'Atlantique pour tourner les yeux vers le Pacifique. Aujourd'hui, que pèse l'Union européenne face à la Chine aux yeux de Donald Trump ?
Alors, le gros problème, c'est d'essayer de comprendre s'il y a une vision stratégique globale pour Trump, puisque pendant sa campagne électorale, on avait l'impression que sa cible numéro un était la Chine. Il avait l'air totalement obsédé par la Chine, qui volait des emplois aux États-Unis, qui avait creusait le déficit commercial des États-Unis. Et donc, on pouvait imaginer une espèce de grande alliance entre Américains, Européens, voire Russes, face à la Chine. Et c'était assez logique, finalement, que de mettre les deux poids commerciaux des États-Unis et de l'Europe puissent se faire mettre, si vous voulez, réaligner la Chine dans ses processus commerciaux et en termes d'investissement. Or là, on a l'impression qu'il s'en prend en même temps à ses deux adversaires. Et donc, d'une façon, j'allais dire, quasi mécanique, on voit un certain rapprochement entre les Européens et les Chinois, avec quelque chose d'assez étonnant. C'est depuis, finalement, le début de l'année 2017, la Chine qui se prétend le grand défenseur de l'ordre international libéral, du libre-échange, avec un fameux discours de Xi Jinping à Davos.
Alors, vous disiez, on pourrait s'attendre à ce que Chine, à ce qu'Américains et Européens aient des intérêts communs et donc fassent front commun contre la Chine. Bruno Le Maire, dans le journal La Croix hier, disait que la réponse était simple, une discussion entre les trois, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et la Chine, et que lui, en tout cas en France, la France et les Européens y étaient prêts. Est-ce que Donald Trump y est prêt ?
Non, ce type, enfin, j'ai du mal à imaginer ce type de discussion à trois, surtout que les questions commerciales ne se règlent pas forcément entre chefs d'État. Il y a aussi, d'un point de vue stratégique, un espèce de rêve de Monsieur Trump, hein, d'un espèce de nouveau Yalta avec les États-Unis et la Chine. D'un point de vue stratégique, ça pourrait être plus logique, même si je pense que cette réunion n'aura jamais lieu. Mais là, d'un point de vue commercial, ça me semble pas tellement pertinent. Je trouve ce qui est assez fascinant, c'est quand même le renversement de situation par rapport aux années 90. Il faut se rappeler qu'au début des années 90, quand on a lancé la mondialisation, en tout cas quand la mondialisation s'est accélérée, qu'il y a eu toute une idéologie pour porter cette mondialisation, on disait que ça allait profiter aux Européens, aux Américains, parce qu'en fait, ils allaient faire fabriquer en Chine, en Asie, enfin, essentiellement en Chine, des produits finalement dont ils allaient ensuite donner de la plus-value. Ou alors ils allaient donner des ordres finalement aux petits producteurs chinois, avec notamment le rôle d'Internet pour faire ça, et que les bénéfices en viendraient aux États-Unis et aux Européens, qui garderaient les emplois les plus qualifiés. Or, cette vision s'est complètement effondrée, puisqu'aujourd'hui, la Chine est concurrente aussi dans la plupart des gammes de produits et de plus en plus dans la haute technologie.
Pierre Grosser, est-ce qu'il y a un grand malentendu sur ce que sont et ce que doivent être les relations de l'Occident avec les États-Unis, et pas seulement sur le plan commercial ? Dans votre livre, vous écriviez que dans une première version de l'histoire, les États-Unis sont un gentil géant qui est entré en guerre et s'est constitué un équivalent d'empire par inadvertance, en réagissant seulement aux actions des autres, comme dans la saga Star Wars, l'Empire contre-attaque.
Alors ça, c'est le discours traditionnel des États-Unis, c'est de dire qu'ils sont pas impérialistes à la différence des Français, des Britanniques et autres, et que finalement c'est uniquement à cause de chocs externes, de défis qui leur ont été lancés, qu'ils sont devenus un empire mondial. Et même le terme empire était un terme qui n'était pas utilisé aux États-Unis, sauf dans les années 60-70, par les historiens de gauche à l'époque de la guerre du Vietnam, où ils avaient l'impression que finalement il y avait une pulsion impérialiste américaine qu'on retrouvait évidemment à l'égard des Indiens, et puis avec des guerres qui ont été menées des interventions et des guerres en Amérique latine, aux Philippines, etc., etc. Il y a une autre vision, évidemment, depuis le début des années 2000, où, d'autre côté, notamment des néoconservateurs, on a considéré que l'empire américain existait et que c'était quelque chose de relativement bien pour le monde, que c'était même un empire par invitation. C'était un terme qui avait été utilisé par un historien nord Norvégiens pour parler de la naissance de l'OTAN. C'était en fait les Européens qui avaient demandé aux Américains d'être présents. Et donc, finalement, c'était bien pour le monde que les Américains soient une, non seulement hégémoniques, mais aussi, d'une certaine façon, un empire.
Et c'est ce que disent, c'est ce qu'on dit aussi les Américains à propos de l'Irak, par exemple, en disant on n'intervient pas par choix, mais par nécessité. On est obligé de le faire.
C'était, tout ça, à fait, ça fait partie. Mais on pourrait reprendre à peu près toutes les interventions américaines. À chaque fois, le discours, c'est de dire qu'on a été obligé de...
Alors, pas impérialiste, dites-vous, c'est leur discours, mais les États-Unis sont-ils à la fois isolationnistes et internationalistes, pour rester dans les barbarismes? On a l'impression que Donald Trump dit « si vous acceptez mon isolationnisme, je veux bien être internationaliste ». Il y a un côté très ambigu dans sa position. De toute façon, on comprend pas. C'est difficile de comprendre ce qu'il veut.
Non, il y a une partie qui est assez traditionnelle chez les Républicains et même chez une grande partie de l'opinion américaine. On s'est habitué quand même depuis assez longtemps à voir les Américains comme une puissance internationaliste, ouverte sur le monde. Et on avait même l'impression que leur fameux soft power, leur capacité à influencer, à attirer, avait existé depuis toujours. Or, il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de traditions américaines en politique étrangère dont Donald Trump est l'héritier. La première chose, c'est que le protectionnisme n'est pas du tout étranger à la tradition américaine, notamment chez les Républicains. Les années 1880, les années 1920 notamment, en sont les preuves.
Et même avant 1830, le président Jackson.
Oui, alors après il y a le fameux jacksonisme, ouais. Donc dont serait héritier Trump, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez unilatéral et qui n'a pas peur d'utiliser la force. Enfin voilà, c'est une tradition. La deuxième chose, c'est le fait qu'il y ait des alliances américaines en temps de paix, tout un réseau d'alliances, à la fois multilatérales dans le cadre de l'OTAN et des alliances bilatérales en Asie. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait nouveau. Les Américains ne voulaient pas faire d'alliance en temps de guerre. Ils étaient, par la Première Guerre mondiale, c'était pas des alliés. C'est-à-dire qu'ils combattaient avec nous, mais ils n'étaient pas formellement alliés. Et le grand tournant, c'est en 1948, avec la fameuse résolution Vandenberg, je suis obligé de rappeler cela, mais cette résolution qui finalement autorise la possibilité, ce qui était un républicain avec un président démocrate, donc finalement les deux parties, une politique bipartisane, en disant « ok, on fait des alliances en temps de paix ». Mais encore une fois, dans l'histoire américaine, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et troisième élément, c'est tous les accords internationaux qui seraient... contraignant pour les États-Unis. Les Américains n'aiment pas du tout ça. Pour eux, ce qui est au sommet du sommet, ce qui est pratiquement l'équivalent des 10 commandements de la Bible, etc., c'est la Constitution américaine. Donc, qu'il y ait du droit international, qu'il y ait des institutions internationales, qu'il y ait des juges internationaux qui obligent finalement des Américains à faire quelque chose sans que la Constitution finalement soit supérieure à ce droit international, c'est quelque chose qui pose problème depuis très très longtemps. Par exemple, sur la question de droits de l'homme, le débat a commencé au tout début des années 50, parce que notamment sur les questions des droits des Noirs, ça posait un certain nombre de problèmes. Eh bien, il y a une espèce de tradition des juristes américains, enfin une grande partie des juristes américains, de s'arc-bouter en disant la référence est la Constitution américaine, et le droit international ne peut pas être supérieur à la Constitution américaine.
Mais alors on cherche des particularismes à la politique internationale de Trump, on essaie de dire en quoi il est en train de casser tous les codes et de faire un petit peu comme bon lui semble, mais finalement Donald Trump il est petit un américain et petit deux républicain.
Alors bien sûr il est les deux, mais en plus il y a sa personnalité qui joue, sa vision du monde qui semble un peu particulière, parce que c'est pas quelqu'un qui fait partie du sérail, qui a été élevé dans le sérail, soit des grandes universités américaines qui ont un rapport aux relations internationales, au droit international particulier. Donc c'est quand même un personnage qui est relativement original. Donc il faut tenir compte évidemment de ces évolutions, mais il y a aussi la grande question, c'est est-ce qu'il peut faire autrement? Avec une opinion qui a quand même largement évolué depuis un certain nombre d'années, et aussi un certain nombre de continuités avec M. Obama. L'idée d'avoir un certain nombre d'éléments de retrait par rapport à la vie internationale, ce qui n'empêche pas des opérations militaires, l'utilisation des drones, etc., c'est quelque chose qui est sur long terme. Quand on fait, c'est assez étonnant de faire un peu l'histoire depuis la fin de la guerre froide et depuis la présidence de Bush père. À l'époque de Clinton, on avait l'impression d'un monde unipolaire et il pratiquait une politique multilatérale. Avec Bush, on était dans un monde qui était unipolaire, il pratiquait une politique unilatérale. Avec Obama, on avait l'impression d'un déclin américain. On était dans un monde multipolaire et il pratiquait une politique multilatérale. Et on arrive à la fin de la quadrature du cercle avec Trump, qui est dans un monde multipolaire, mais qui pratique une politique unilatérale.
Alors, ses conseillers avaient fait beaucoup d'efforts pour théoriser la doctrine Trump. Et c'était juste après son, ou juste avant son premier voyage à l'étranger en mai 2017, en Arabie Saoudite, Israël, Europe. Et donc, deux de ses conseillers avaient exposé la vision du monde de Donald Trump dans une tribune dans le Wall Street Journal en parlant de, je cite, sa vision claire que le monde n'est pas une communauté mais une arène dans laquelle les nations, les acteurs non gouvernementaux et les entreprises sont en contact et en compétition pour l'emporter. Donc rien d'original là-dedans ?
Là, c'est pour ça qu'on a l'impression de revenir à des temps assez anciens dans ce type de discours, c'est-à-dire un monde anarchique où tout le monde est en guerre contre tout le monde ou en rivalité les uns avec les autres, alors qu'on avait expliqué que durant le XXe siècle, avec évidemment des avancées, des reculs, on avait essayé de construire une espèce de communauté avec surtout, et c'est ça qui est très important, qui est une des raisons pour lesquelles il y a eu la fin de la guerre froide, parce que Gorbatchev était assez persuadé de cela, c'est qu'il y avait des défis communs à l'humanité. Des défis communs à l'humanité qui pouvaient être la pauvreté, qui pouvaient être évidemment la question de l'environnement, qui était le terrorisme aussi d'une certaine façon, qui étaient des défis communs à l'humanité. Et là, on a l'impression que cette vision de l'humanité a complètement disparu, en tout cas dans le discours de Trump et dans ses pratiques, puisqu'il remet en cause à peu près tous les accords internationaux, et qu'effectivement on revient à une scène de gladiateurs qui s'affrontent, et ça, ça fait penser à des temps très très anciens, ce qui est assez paradoxal, parce que Obama expliquait finalement perpétuellement à M. Poutine qu'il n'était pas du XXe siècle, du XXIe siècle, qu'il était du XXe voire du XIXe siècle. Et là, on a finalement avec Trump quelqu'un qui a un discours qui ressemble très largement à celui du XXe voire du XIXe siècle.
Alors voilà pour le discours. C'est vrai que dans ses actes, il se dédie beaucoup, ce président. Il avait menacé de rejeter une partie du traité de l'OTAN si les alliés n'assumaient pas une plus grande part du fardeau. Il n'en a finalement rien fait. Il a même renforcé la présidence américaine à l'est de l'Europe. Et on peut énumérer comme ça plusieurs dossiers sur lesquels il avait pris des positions très fortes, notamment dans des tweets, bien sûr, pour ensuite finalement revenir en arrière. Alors pour conclure, certains analystes proposent une interprétation, disons, charitable des coups de sang de Trump en disant qu'après tout, il a peut-être adopté la théorie du fou de Nixon. Nixon qui trouvait avantage, est-ce que l'Union soviétique pendant la guerre froide le croit capable de décisions irrationnelles? Alors il nous fait le coup du fou ou pas, Donald Trump?
Alors, on va parler longtemps de la théorie du fou et je la décris dans mon livre, puisque c'est pendant la guerre du Vietnam. En fait, d'abord, ça a été un échec complet et ça a été extrêmement dangereux. C'est-à-dire, il a fait penser qu'il pourrait utiliser l'arme atomique pour que les Soviétiques fassent pression sur les Vietnamiens. Or, les Soviétiques n'ont absolument pas été impressionnés et s'apercevaient qu'ils avaient de toute façon assez peu de prise sur les Vietnamiens. Donc là, il n'y a pas la théorie du fou. En revanche, oui, il y a eu beaucoup de contradictions, de retours en arrière, mais il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels il reste et de dossiers sur lesquels il reste, j'allais dire, droit dans ses bottes. Le soutien à Israël et l'hostilité à l'Iran. Et on a l'impression, à l'inverse d'Obama, qui commençait à réfléchir vraiment sur l'Asie, aux équilibres globaux du monde, que lui est quand même très focalisé sur ces deux dossiers.
Et sur son clan, comme le dit la journaliste, ou sa marque, comme le dit Naomi Klein, peut-être dans son dernier livre. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Grosser, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'histoire du monde se fait en Asie, chez Odile Jacob. Et c'est chez ce même éditeur que vous avez publié Traiter avec le diable, les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle. Merci d'avoir été notre invité
Merci
ce matin.
Vous.
Bonne journée.